Lecture dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 7 à 9. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, éclatez d'allégresse en tête des nations. Faites-vous entendre, louez. Dites Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Je les ramène du pays du nord, je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte comme la femme en travail. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ils arrivent en pleurant, et je les conduis dans leurs supplications. Je les mène vers des cours d'eau, par un chemin tout droit, où ils ne peuvent trébucher, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 1 à 6. En effet, tout grand prêtre parmi les humains est institué pour les humains dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir, pour lui-même aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Or personne ne s'attribue à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, comme à Aaron lui-même. De même, le Christ ne s'est pas octroyé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Tout comme il dit encore ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et enfin, dans l'évangile de ce jour, c'est un passage de l'évangile selon Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. « Ils viennent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant, aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Alors, je vais vous commenter ce matin ce texte donc, de l'Évangile selon Marc. D'abord, je vais faire une petite remise en contexte, et puis j'aimerais qu'on plonge un peu plus près du texte pour comprendre où en sont Jésus et les disciples le matin de cette scène du miracle de la guérison de Bartimée. Alors, tout comme dimanche dernier, on est dans l'Évangile selon Marc. Cet évangile qui s'ouvre avec le baptême et l'épreuve au désert, puis continue avec le ministère de Jésus, l'appel de Simon et André, suivi de celui de Jacques et Jean, puis une série de guérisons, l'appel de Lévi, le collecteur de taxes, et puis Jésus qui réinterprète la loi juive concernant le jeûne et le sabbat. Et en apprenant tout ce que fait Jésus, une foule vient à lui pour lui demander des guérisons. Il monte sur la montagne, où il va appeler les 12 qu'il choisit, je cite, « pour être avec lui et pour les envoyer prêcher ». Ensuite, le ministère de Jésus et des 12 se poursuit avec succès en Galilée et dans les régions qui sont à l'est du Jourdain. Et là viennent les trois annonces de la Passion. Alors une première annonce au chapitre 8 vient doucher l'enthousiasme des disciples. La seconde au chapitre 9 se heurte de nouveau à leur incompréhension. On dirait que les disciples sont restés sur leur petit nuage rose, ce nuage rose de leur succès en Galilée, et ils n'ont pas l'air de comprendre le message que Jésus tente de leur faire passer. D'ailleurs, Jésus découvre en cours de marche que les disciples marchent derrière lui en débattant qui est le plus grand d'entre eux. Et puis ça continue avec le passage que nous avons entendu la semaine dernière. Souvenez-vous, Jacques et Jean qui demandent à Jésus les bonnes places dans sa gloire, les places à sa droite et à sa gauche. Et Jésus voit ensuite la réaction jalouse que ça déclenche chez les disciples. Et il comprend alors que son enseignement n'a toujours pas été entendu.
Mais avec la patience du bon pédagogue, Jésus leur répète ce qu'il leur a déjà dit. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et c'est le message dont Véronique nous a parlé la semaine dernière. La grandeur qu'il y a dans la servitude, que pour servir, on n'a besoin de rien, si ce n'est de l'amour. Que même le tout dernier, le plus petit d'entre nous, peut devenir le plus grand s'il est serviteur de son prochain. Mais les disciples et nous, lecteurs de ce texte ou auditeurs à l'époque, cette fois-ci, l'aurons-nous enfin compris ? Alors rien de tel qu'un beau récit de miracle. Le mot pour miracle en grec, c'est séméion, ça veut dire signe littéralement. Donc rien de tel qu'un bon miracle, qu'un bon signe pour nous montrer et expliquer aussi aux disciples quelle est la signification du message de Jésus. Oui, le texte du jour, c'est la scène qui suit directement le passage de la demande de Jacques et Jean. Et en le lisant, on se rend vite compte qu'il prend un relief très intéressant lorsqu'on le compare textuellement côte à côte avec le passage précédent. Ces deux demandes qui se suivent. D'une part, la demande des fils de Zébédée et d'autre part, celle de Bartimée, l'aveugle au bord du chemin. Par un jeu de miroir, il nous invite à la réflexion sur ce que cela signifie même que de servir. Qu'est-ce que servir mon prochain ? Alors analysons un peu ces similitudes et ces différences, en commençant par l'ouverture de ces deux textes, deux demandes faites à Jésus. D'un côté, Jacques et Jean viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et d'autre côté, Bartimée, au bord du chemin, qui lui se met à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. » D'un côté, c'est une demande de piston, formulée d'ailleurs d'une façon un peu osée par les disciples qui lui disent « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» mais sans vraiment préciser ce que c'est au départ. Et de l'autre, Bartimée, qui est assis au bord du chemin, qui lui demande par un cri du cœur à Jésus de prendre pitié. Certaines traductions diront même qu'il hurle. Puis la question de Jésus, et c'est en voyant cette question qu'on ne peut s'empêcher que de faire la comparaison entre les deux textes, elle est formulée exactement de la même façon. D'abord, il dit à Jacques et Jean, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ensuite à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Oui, quelle que soit la demande, Jésus écoute, puis répond. Il ne juge pas la demande a priori, il nous laisse nous exprimer, que ce soit les frères Jacques et Jean ou le cri de l'aveugle au bord du chemin. Il écoute d'abord notre cri jaillir du cœur, et ensuite il l'adresse. Et dans le cas de l'aveugle, c'est particulièrement remarquable que Jésus s'arrête pour lui poser cette question, car à l'époque, l'aveugle est un impur de la société. Jésus, lui, ne s'impose pas, il prend en compte la dignité de cet homme, rien qu'en lui adressant une parole, en lui adressant une question à cet homme qui n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer. Jésus ne le considère ainsi pas comme un objet, mais comme un sujet à part entière, une personne humaine qui a son mot à dire. En fait, le miracle, la guérison, quelque part, il est déjà là. Implicitement, rien qu'en s'arrêtant au cri de Bartimée, en quelque sens, il lui a redonné la vue, c'est-à-dire qu'il lui redonne foi et confiance pour suivre Jésus, rien qu'en admettant son existence. Et par ailleurs, en admettant son humanité, il l'a rendu visible pour tous ceux qui jusqu'alors l'ignoraient. Il ne veut pas lier Bartimée à lui d'une manière négative, il ne le rend pas dépendant de lui, il ne veut pas en faire un esclave. Jésus le libère par cette question pour se trouver soi-même libre de trouver Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Par cette question, Jésus rend à cet homme son humanité. Il le reconnaît vraiment en tant que personne humaine. Jésus ne se met pas en avant, il se met au service. Au service de cet homme pour qu'il puisse à nouveau vivre une vie humaine libre. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que le nom Bartimée peut soit signifier fils de l'impur ou fils de l'honneur. Bar en araméen veut dire fils. Et après, selon qu'on opte pour la racine grecque ou hébreu, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, on mélangeait, on retrouvait les deux, ça peut être soit fils de l'honneur, soit fils de l'impur. Impossible de trancher avec certitude si l'évangéliste avait une de ces options en tête. Et on connaît des exemples de noms du temps de Jésus qui mélangent l'araméen et le grec. Donc ça n'est certainement pas une coïncidence. Bartimée est le symbole des deux à la fois. Impur par sa cécité, mais aussi celui dont le Christ rend son honneur en le traitant comme une personne humaine. Donc la profonde bienveillance de Jésus ne fait pas de différence dans l'accueil de ces deux demandes, pourtant complètement opposées. Tous les trois, Jacques, Jean et Bartimée, sont invités à exprimer leur désir. Jésus ne rembarre pas plus la prétention des fils de Zébédée, qui ne décide de lui-même rendre la vue à celui qui est aveugle, sans lui demander au préalable ce qu'il souhaite. Mais revenons au texte. Il s'ensuit la réponse de chacun à la question de Jésus, Jacques et Jean, qui veulent d'un côté, qui veulent siéger à chaque côté de Jésus, à sa droite et à sa gauche, et Bartimée, qui demande à retrouver la vue. Jacques et Jean, disciples de Jésus, qui marchent déjà à ses côtés, qui se comprennent comme des élèves face à leur maître, et se disent que le but, c'est de chercher à l'égaler, d'être avec lui dans sa gloire. Malgré le fait qu'ils suivent Jésus depuis le début de l'Évangile, malgré les annonces de la Passion, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'enseignement de Jésus. Ils sont toujours à se demander qui sera le plus grand parmi eux. Et de l'autre, en contraste, un Bartimée qui admet sa cécité et qui ne demande que ça, voir. Alors qu'est-ce que voir ? Le verbe grec qui est utilisé dans ce texte, c'est le verbe blepo, qui veut dire avoir la vue, mais qui veut aussi dire aspirer à, regarder vers un but. Et donc il est clair que l'aveuglement dont il est question ici est symbolique, à comprendre comme le manque de foi des disciples. Ou pour le dire plus précisément, les disciples ont eux une vision complètement erronée de la mission de leur maître. Il leur faut passer encore par des événements, celui de la croix, de la résurrection, pour comprendre la véritable nature et la venue du Christ. Bartimée est en contraste le modèle du disciple idéal. Oui, le vrai disciple est comme un mendiant au bord du chemin qui appelle, qui crie toujours et toujours vers le Seigneur pour être guéri de son aveuglement, c'est-à-dire de son manque de foi ou de sa fausse foi. Et la réponse de Jésus à cela ? Eh bien, c'est l'inverse, le contraste complet entre les deux passages. À Jacques et Jean, il leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Et puis il leur dit « Pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner ». Donc il y a un passage assez long, une réponse assez longue de la part de Jésus à Jacques et Jean. Par contre, à Bartimée, il dira simplement « Va, ta foi t'a sauvé ». Ce qui nous montre qu'ici, la vérité n'est pas de l'ordre de l'argumentation, mais de l'expérience. Elle se vit, et c'est ce qui se passe dans le passage avec Bartimée. Ce récit de guérison met les personnages en action, qui vivent l'enseignement que répète auparavant Jésus aux disciples depuis des chapitres. C'est un récit d'action, un signe, comme on disait, qui est peut-être nécessaire pour que les disciples, et que pour nous, comprenions enfin. « Va, ta foi t'a sauvé ». Et qu'est-ce que la foi si ce n'est cet élan qui nous remet debout, qui nous ouvre les yeux, qui fait que nous laissions des choses derrière nous, qui nous oppriment, qui nous enferment, qui nous donne une fausse sécurité pour aller de l'avant dans la vie, confiant. C'est le verbe egeiro qui est utilisé, le même verbe qui est utilisé par l'ange au matin de Pâques pour décrire la résurrection du Christ. L'aveugle jette son manteau, cet objet de statut social, d'étiquette. Il se sent allégé et bondit vers Jésus. Et la foule, ou l'entourage dans toute cette histoire ? Eh bien, dans le premier récit, les 10 autres disciples, quand ils entendent Jacques et Jean, ils ronchonnent. On nous dit que les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Donc, la demande de ce piston génère de la concurrence entre eux et de la jalousie. Dans le récit de guérison, la foule demande à Bartimée de se taire. À ça, la foule qui demande à celui de se taire, c'est une situation qu'on connaît bien. Pour les proches, écouter celui qui souffre et pour lequel on ne peut rien faire, c'est insupportable et donc Jésus les remet en selle. Il leur demande d'appeler Bartimée. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Et les gens autour l'encouragent à y aller. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Et ainsi Jésus fait de la foule des co-réalisateurs de cette guérison. C'est une chose que fait souvent Jésus. Il implique les personnes qu'il a en face de lui. Et par cela, ils renversent leur logique, notre logique, celle du monde, de la nature humaine, qui veut que nous cherchions la meilleure place, la gloire, être les premiers, les plus forts. Jésus les implique dans la logique de Dieu, la logique où la grandeur est dans la servitude. Et enfin, regardons les conclusions de ces deux épisodes. Le premier passage se termine avec leur arrivée à Jéricho. Et Jéricho, c'est quoi ? Eh bien, Jéricho, c'est la ville la plus basse sur la terre. C'est la ville qui a été conquise par Josué à l'aide d'une prostituée, Rahab. Une ville à 250 mètres sous le niveau de la mer, la ville la plus basse du monde. Ils descendent donc physiquement à l'endroit le plus bas pour s'abaisser spirituellement condition nécessaire à tout relèvement. Et la conclusion de l'épisode qu'on a lu ce matin, celle de Bartimée, le texte nous dit « Aussitôt il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. » Et oui, Bartimée, lui, il était déjà au plus bas. Il ne se met ni à droite, ni à gauche de Jésus. Il est derrière, il suit. Et là, il y a de la place pour tout le monde. Ce récit se situe après la troisième annonce de la Passion et de la Résurrection. Il est donc le premier disciple qui suit Jésus en sachant que le chemin de Jésus va se poursuivre jusqu'à la Passion. Alors pour conclure, dans le premier passage, il s'agit des disciples qu'on voit au devant de la scène. Au deuxième passage, ils sont complètement absents. C'est comme s'ils disparaissaient dans ce passage, juste après avoir demandé les positions de droite et de gauche. Et c'est justement ça l'enseignement de ce passage, de ce passage de guérison. Ils ne sont ni à droite ni à gauche de Jésus, ils sont renvoyés à leur ministère. Car c'est eux, quelque part dans cette foule à Jéricho, que Jésus implique dans la guérison. C'est eux qui, après avoir reçu l'appel de Jésus, appellent à leur tour l'aveugle, afin qu'il croie. Dans ce récit, l'importance de l'appel est soulignée, car au verset 49, le verbe « appeler » apparaît trois fois, dans des formes diverses. Oui, car tout comme Jésus a été appelé, nous sommes ceux que Jésus appelle. Il nous appelle à le suivre dans la servitude, c'est-à-dire qu'il nous appelle afin que nous appelions, à notre tour, celui qui souffre au bord du chemin, pour lui redonner le courage de se lever à son tour à la rencontre de Jésus. Et la suite, comme le disait Jésus à Jacques et Jean, eh bien la suite, elle ne nous appartient pas. Amen. Thank you.